voir actualité dans la fabrique de ce vendredi, comme tous les vendredis, actualité entre autres des publications d'histoire, avec Victor Massé de l'Épinay de la fabrique de l'histoire. Ce vendredi, nous nous souviendrons du grand, du très grand historien qu'a été Bartolomé Bénassar. Nous rappellerons le rôle qu'a joué l'archiviste et conservatrice des archives Brigitte Lenné dans la prise en compte de notre histoire, dans notre histoire du massacre du 17 octobre 1961 avec Emmanuel Blanchard de l'université de Versailles-Saint-Quentin et de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui est auteur entre autres de la police parisienne et les Algériens mais également d'un repère sur l'histoire de l'immigration algérienne en France aux éditions de La Découverte. Puis en deuxième partie de cette émission, William Bian Blanc viendra nous rejoindre. Il viendra nous parler de son histoire politique des super-héros paru chez Libertalia à l'occasion du décès cette semaine de Stan Lee, le grand auteur de comics américains. Enfin, avec Retro News, le deuxième épisode de l'arrestation de Ravachol raconté dans Le Matin du 31 mars 1892. Nous avons assez peu l'occasion de saluer effectivement des historiens qui ont une aura internationale. Il nous fallait donc rendre hommage à un historien mort à 89 ans. C'était la semaine dernière. Grand historien de l'Espagne, salué donc dans la presse française, Bartolomé Bénassar. Il avait été un des grands élèves de cette école française des annales, en particulier avec sa thèse sur Valladolid. Et il avait ensuite continué à travailler sur la mondialisation de l'histoire espagnole au XVIe et XVIIe siècle, mais il avait également été un grand auteur sur le XXe siècle espagnol avec une histoire de Madrid tout juste parue il y a quelques années aux éditions Perrin. Cet historien s'appelait donc Bartolomé Bénassar. On écoute un extrait d'une émission qui lui était consacrée, dans laquelle il intervenait, dans les chemins de la connaissance. C'était en 1996. Il était interrogé par Katharina von Bülow sur France Culture.
Je ne suis pas sûr justement qu'on puisse retenir l'adjectif d'impérialiste pour l'accoler à Charles Quint. Charles Quint a une conception de l'Empire qui en effet le rapproche de l'idée d'une monarchie universelle, mais pas d'une monarchie qui soit le moins du monde nationaliste. Il avait été très frappant de constater que Charles a toujours dit qu'il en avait assez avec les États qu'il avait reçus, et qu'il avait nullement l'intention de priver les autres princes de leurs états. Par contre, il prétendait à une sorte de leadership spirituel et intellectuel face, si vous voulez, au reste du monde. Car ce qui est très frappant, et beaucoup d'historiens l'ont remarqué chez Charles Quint, c'est qu'il ne peut se confondre avec aucune nation. C'est véritablement un Européen. Il n'est pas espagnol, il est né en Flandre, il est mort en Espagne. Mais il n'est pas flamand, il n'est pas espagnol, il n'est pas français, il n'est pas bourguignon, il n'est pas allemand, il n'est pas italien. Il est tout cela à la fois.
Ce qui est remarquable dans la carrière de Bartolomé Bénassar, disparu la semaine dernière à l'âge de 89 ans, c'est qu'il a été non seulement un très grand historien, auteur de très grands livres, dont sa thèse sur Valladolid, qui lui vaut d'ailleurs l'hommage dans El Norte de Castilla, le journal de Valladolid, comme grand historien. Il est surnommé dans la presse espagnole Hispanista de Gran Prestigio. Il a été aussi un très grand professeur, et c'est peut-être aussi ce qu'il faut dire. On ne salue pas assez justement les qualités de ces professeurs qui ont transmis leur savoir pendant des générations, devant des générations d'étudiants. Il était donc professeur, enseignant-chercheur à l'université du Mirail et en particulier celui qui dirige aujourd'hui la Casa de Velázquez s'exprimait la semaine dernière dans la Dépêche du Midi pour saluer celui qui avait renouvelé l'enseignement de l'histoire auprès des étudiants de Toulouse le Mirail, et c'est à saluer. Voilà donc, nous voulions rendre un court hommage, mais néanmoins mettre cette émission du vendredi sous la houlette bienveillante de celui qui s'appelait Bartolomé Bénassar et qui nous a beaucoup appris sur l'Espagne. Autre disparition en exergue de cette émission d'aujourd'hui, celle de l'archiviste Brigitte Lenné. Bonjour Emmanuel Blanchard.
Bonjour.
Vous êtes historien de la guerre d'Algérie dans Paris, en particulier des positions des policiers de la police française française pendant cette guerre d'Algérie. Et si nous voulions là aussi rendre un autre hommage à Brigitte Lainé, c'est qu'elle a un parcours peut-être plus secret que celui de Bartholomé Bennassar. Elle n'avait pas vocation a priori à devenir une personne publique, mais elle l'est devenue dans les années 1990 à l'occasion d'un procès qui a été retentissant autour du 17 octobre 1961, Emmanuel Blanchard.
Oui, effectivement, Brigitte Lainé était avant tout connue des historiens qui fréquentaient les archives de Paris, où elle était en poste depuis la fin des années 70. Et si au cours des années 90, on a beaucoup parlé des historiens dans le prétoire, à propos notamment de la Seconde Guerre mondiale, on a découvert avec Brigitte Lainé que les archivistes aussi pouvaient fréquenter les prétoires. C'était en 1999, dans un procès intenté à Jean-Luc Yenaudi, on y reviendra sans doute, et que les archivistes, quand ils prennent la lumière ainsi, prennent beaucoup plus de coûts que les historiens, puisqu'ils ne sont pas soumis au même statut, et qui peut notamment leur être opposé à un secret professionnel, ce qui sera opposé à Brigitte Lainé et brisera la fin de sa carrière.
Oui, Brigitte Lainé, à laquelle il faut effectivement ajouter le nom de Philippe Grand, qui a été aussi qui a témoigné par écrit pour ce procès. On écoute un extrait de la voix de Brigitte Lainé retrouvée dans un reportage de France 3. C'était le 28 février 1980. 99, et on y revient avec vous, Emmanuel Blanchard.
Un fonctionnaire peut-il sortir de son droit de réserve au nom de la vérité historique et témoigner à un procès sans l'aval de son administration? Non, selon le ministère de la Culture qui s'apprête à engager une enquête administrative à l'encontre de Brigitte Lainé, conservatrice aux archives de Paris. Le procès remonte au 11 février dernier. Maurice Papon, ancien préfet de police de Paris, poursuit en diffamation l'auteur Jean-Luc Yenaudi pour avoir déclaré « Il y eut à Paris un massacre par des forces de l'ordre sous les ordres de Maurice Papon ». À l'invitation de la Défense, Brigitte Lainé confirme la réalité du massacre. Elle décide de sortir de son devoir de réserve puisque Jean-Luc Yenaudi n'a pas obtenu l'accord pour consulter les archives de Paris.
Comme je connais très bien les dossiers judiciaires qui sont dans mon secteur d'attribution, je pense qu'il était de mon devoir de témoigner de ce que pouvaient dire, de ce que peuvent dire les archives par rapport à ces massacres et à ces exactions.
Brigitte Lainé souligne qu'elle s'est bornée à témoigner sans citer d'extrait de dossier. Une circonstance aggravante, selon le directeur des archives de Paris, qui dénonce une interprétation discutable des archives. À ce jour, seuls deux historiens ont pu les consulter. La demande de Jean-Luc Yenaudi, elle, est restée sans réponse.
Voilà donc pour ce reportage de France 3 qui commence à dresser le moment important de cette histoire, 1999. Nous sommes avec Victor Massé-Lépinay et avec vous, Emmanuel Blanchard, historien, donc spécialiste de ces questions de la place de la police dans la répression en France pendant la guerre d'Algérie. Vous étiez étudiant à ce moment-là. Vous étiez en train de faire un DEA, c'est cela, Emmanuel Blanchard?
Oui, j'étais étudiant, je commençais à m'intéresser aux questions de police, mais pas encore à cette question du 17 octobre 61, sinon comme un citoyen. Et c'est ça qui est important, je pense, de retenir dans, effectivement, dans cette histoire à laquelle a contribué Brigitte Lainé, c'est que finalement, on a eu affaire, au cours de ces années 1990, à un emboîtement d'affaires. C'est-à-dire que Maurice Papon était poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité, depuis le début des années 80, mais l'affaire judiciaire se noue au procès de Bordeaux en 1997. Et dans ce procès à Bordeaux, qui va beaucoup irriguer la presse, et c'est ainsi que j'en ai eu connaissance comme beaucoup à cette époque, il y a un procès dans le procès. Parce que Pierre Mera, l'avocat de Jean-Luc Yenaudi, décide d'inclure dans ce qu'on appelle le curriculum de curriculum vitae de Maurice Papon cette affaire du 17 octobre 1961.
Il faut dire que Jean-Luc Yenaudi n'est pas un historien entre guillemets patenté de l'université et que son statut de militant et de chercheur qui va permettre de mettre à jour effectivement ce qui s'était passé pendant ces massacres du 17 octobre 1961 va lui être reproché. On va souvent dire voilà quelqu'un qui se mêle d'une histoire parce qu'il est trop politique, il est trop marqué par son engagement politique. Et néanmoins, cet engagement politique et cet engagement citoyen de Jean-Luc Yenaudi va permettre de faire sortir cette histoire du 17 octobre 61 qui était restée plutôt sous le boisseau, en l'occurrence, Emmanuel Blanchard.
comme souvent avec l'histoire très contemporaine, puisque Jean-Luc Inaudi commence à travailler dans les années 1980, donc 20 ans après les faits, l'université est à la traîne. Mais d'une certaine façon, Jean-Luc Inaudi incarne les historiens, même s'il ne l'est pas professionnellement. Quand vous lisez la presse de l'époque, il est écrit « Pour les historiens, le bilan est d'environ 200 victimes ». Et les historiens, à l'époque, finalement, ce n'est que Jean-Luc Inaudi, mais fort d'un certain nombre de soutiens. Il est très soutenu depuis ses premiers livres par Pierre Vidal-Naquet, qui lui a donné ses lettres de noblesse d'historien, en disant notamment « On ne naît pas historien, on le devient ». Et Monsieur Inaudi a fait ses preuves. Et la presse qui rend compte du procès rend compte, justement, de l'irruption dans une affaire judiciaire de faits qui sont de plus en plus validés par le travail historique, et notamment celui de Jean-Luc Inaudi, puisqu'il y a aussi des travaux de maîtrise qui sont menés à l'époque dans l'université française, puisque cette affaire commence à être de plus en plus connue.
Victor Massé-Lépiné.
Mais cette question du statut de Jean-Luc Inaudi, qui n'est pas historien patenté, comme l'a dit Emmanuel, peut-être pas universitaire en poste, labellisé par un laboratoire de recherche, est au cœur de toute cette histoire, puisque il fonde son travail donc essentiellement sur des témoignages, et les archives étaient essentielles à ce procès. Au début du procès, Papon était assez convaincu de gagner assez facilement, puisqu'il disait « on ne pourra pas m'opposer de preuves matérielles, on ne pourra pas m'opposer d'archives ». Est-ce que ces archives auxquelles finalement Brigitte Lainé a fait référence en témoignant à ce procès étaient accessibles pour d'autres historiens au moment où Inaudi travaillait sur ces questions ?
Alors, disons qu'on est à la fois dans une époque où la loi de 1979 empêche l'accès à ces archives, si jamais elles avaient été classées au préalable, parce que ça c'est encore une autre question, si jamais elles avaient existé, et qu'elle permet un régime de dérogation pour un certain nombre de personnes qui peuvent accéder à des archives. Au début où Jean-Luc Inaudi travaille sur cette période, personne n'a demandé à accéder à ce type d'archives, même s'il y a déjà un grand débat qui s'est noué surtout autour des archives de la Seconde Guerre mondiale, avec le livre de Sonia Combe, Les archives interdites, autour justement, quelle est cette distinction entre des citoyens distingués, que seraient les historiens patentés, notamment absolument, d'un certain nombre de centres de recherche, et d'autres personnes, citoyens, citoyennes, historiens du dimanche, comme disait Philippe Ariès, qui voudraient accéder à ces archives.
Il faut préciser que Sonia Combe est une des premières à avoir récemment rendu hommage encore à Brigitte Lainé, à son travail justement de révélation de ces archives qui étaient, disons, sinon cachées, en tout cas, qui n'étaient pas accessibles à tout le monde, aux archives de Paris.
Effectivement, ce qu'il faut bien... En fait, le grand héritage de Jean-Luc Inaudi, au-delà de son livre de 1991, La bataille de Paris, et des autres livres qu'il a donnés, c'est qu'il a offert l'accès aux archives, d'une certaine façon. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Puisque les archives lui étant interdites, d'une certaine façon, puisqu'il a fait tout un ensemble de demandes, après son intervention au procès de 1997, d'une certaine façon, allumer des contre-feux. À la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice vont diligenter des missions qui vont déboucher sur des rapports chargés à la fois de dire s'il y a des archives qui existent dans les fonds du ministère de l'Intérieur, dans les fonds de la préfecture de police, dans les fonds du ministère de la Justice, et d'essayer d'esquisser un bilan à partir de ces reliquats d'archives sur le 17 octobre 61. Et en 1999, ce qui se joue, c'est que Jean-Luc Inaudi n'a toujours pas eu accès à ces archives. Et c'est pour ça que Brigitte Lainé témoignera en direct au procès, qui est un procès en diffamation contre Jean-Luc Inaudi, qui a affirmé dans une tribune du Monde que s'était commis à Paris un massacre le 17 octobre 1961 et qui était en responsabilité Maurice Papon. Et pour qu'il puisse assurer sa défense, et là on a l'éthique de l'archiviste et non pas forcément la lettre du statut de l'archiviste, Brigitte Lainé considère qu'il ne peut pas assurer sa défense puisqu'on lui interdit l'accès aux archives. Les dérogations ont été ralenties, notamment à l'instigation du directeur des archives de Paris, et donc Jean-Luc Inaudi ne peut pas faire preuve d'une certaine façon tout à fait de ce qu'il avance, même si son livre apportait suffisamment de preuves, que les archives ne sont pas simplement les archives de l'État et les archives des institutions.
Victor Massé-Lépiné.
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Brigitte Lainé n'a pas extrait d'archives, n'a pas communiqué à Jean-Luc Inaudi des archives de façon secrète et là totalement illégale. Elle a témoigné en tant que, on peut dire aussi en tant que citoyenne française. C'est un devoir citoyen pour elle de témoigner. Est-ce que ce qu'elle fait en faisant référence pour le coup au tribunal à des cotes d'archives précises, c'est au sens propre illégal ?
Alors, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais il faut revenir aux faits. Brigitte Lainé n'a jamais été sanctionnée, ni même disciplinairement par le ministère de la Justice. Elle a été mise au placard, pour le dire simplement, par son supérieur hiérarchique, mais aucune poursuite n'a été diligentée contre elle. Et même, elle a obtenu devant le tribunal administratif que ce qui avait été cette mise au placard soit mis fin, pour dire très simplement. Donc, du point de vue des archivistes, certes, il y a eu une tension entre notamment, on va dire, les hauts cadres des archives qui ont poussé pour qu'elle soit sanctionnée, mais elle ne le fut jamais.
Il y a eu des pétitions.
Il y a eu des pétitions, mais il y a eu des contre-pétitions d'élèves chartistes, d'historiens, surtout étrangers d'ailleurs, plus que français, qui sont venus en défense de Brigitte Lainé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment du procès, l'opinion publique, je mets les guillemets avec les mains, sait que ces archives existent. Mmh. Elle sait que ces archives existent, notamment parce que David Assouline s'était rendu aux archives de Paris et avait pu photographier des inventaires que Philippe Grand lui avait soumis. C'était des inventaires qui mettaient au jour le fait qu'il y avait un certain nombre de dossiers sur les Algériens disparus au cours de l'automne 1961.
Et d'une certaine façon, votre travail d'historien, à vous, prend appui sur cet acquis. De ce travail mené par Brigitte Lainé en tant qu'archiviste, cette capacité à pousser les portes, pourrait-on dire, et à faire en sorte que les lois sur les archives changent, et vous allez pouvoir faire votre travail d'historien sur la police dans Paris pendant la guerre d'Algérie, à partir des changements justement de regard portés sur ces archives qui étaient interdites à un moment et qui ne le sont plus ensuite, c'est cela, Emmanuel Blanchard?
Alors disons que je suis passé par le régime de la dérogation,
ouais, c'est ça.
Le régime de la dérogation, et que je vais peut-être bénéficier du privilège qui était accordé à certains, au travers de mon directeur de thèse peut-être, mais il est sûr que, surtout aux archives de la préfecture de police, une fois que la mission Mandelkern, qui avait été mandatée pour les archives de la préfecture de police, a fait son travail, des dizaines et des dizaines d'historiens, dont Jean-Luc Enaudi, mais tard, d'une certaine façon, ont pu accéder à des archives dont on ne pouvait penser qu'on ne les verrait jamais.
Et ce qui est important aussi, c'est de rappeler, c'est que peut-être pour nos plus jeunes auditeurs, ceux qui sont nés dans la connaissance, puisque désormais elle est connue, de cette date du 17 octobre 1961, et ceux qui ne sont pas nés comme moi dans la connaissance d'un autre massacre dans Paris, à savoir celui de Charonne, c'est pour ces plus jeunes auditeurs, ils n'ont pas savoir, ils ne savent pas combien il y a eu une sorte de troc mémoriel entre ce qui était valorisé dans les années 60, 70 et au début des années 80, à savoir justement ce qui s'était passé lors de cette manifestation de Charonne en 1962 et ce qui est devenu aujourd'hui le signe pour quasiment tout le monde dans la société française d'un massacre pendant la guerre d'Algérie à Paris, à savoir le 17 octobre 1961, c'est-à-dire l'émergence très forte de cette date dans la mémoire collective contemporaine, Emmanuel Blanchard.
Effectivement, on a affaire avec cette histoire à la fois à un emboîtement et à un glissement. On a l'emboîtement d'un procès, le procès Papon, avec un procès dans le procès qui est le 17 octobre 61 avec Jean-Luc Enaudi, ensuite avec les procès contre Jean-Luc Enaudi, et derrière Brigitte Lainé qui témoigne et qui va être sanctionnée. Et le glissement, c'est le glissement d'un moment où la mémoire hégémonique était la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, avec une mémoire secondaire qui était la mémoire du mouvement ouvrier ou du communisme, vers une mémoire qu'on va appeler la mémoire coloniale, postcoloniale, avec le grand retour de la guerre d'Algérie sur la scène mémorienne, et le 17 octobre 61, qui d'une certaine façon va devenir hypermnésique, selon les mots d'Henri Rousseau, puisque d'une certaine façon il va symboliser à la fois l'état d'exception et les violences de la guerre d'Algérie. Et c'est là où s'est inscrit avec modestie Brigitte Lainé, qui a très peu témoigné, et si on veut véritablement connaître ce qu'a été son parcours, je renvoie au livre de Fabrice Ricepouti, 17 octobre 61, La bataille d'Enaudi, comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, avec un chapitre sur la question des archives et sur Brigitte Lainé et Philippe Grand.
L'éditeur du livre de
Fabrice. Le passager clandestin.
Le passager clandestin, on le mettra sur notre site, bien évidemment. Merci beaucoup d'être venu, Emmanuel Blanchard, pour pouvoir nous rappeler ce moment d'histoire très important, puisque c'est une bascule mémorielle, pourrait-on dire, dans notre propre histoire, dont Brigitte Lainé, à sa place, a été une des actrices. Il fallait que cela soit rappelé dans la fabrique de l'histoire. Merci encore. Ah! Put your bad self. Say it loud.
thing for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working for someone else. Say it loud.
Say It Loud de James Brown, un titre de 1968. Pour continuer notre émission de ce jour sur l'actualité, nous avons appris la disparition à l'âge de 95 ans du grand auteur de comics américain qui était Stan Lee, et nous voulions revenir avec vous, William Blanc, bonjour.
Bonjour.
Sur ce culte, pourrait-on dire, populaire des super-héros. Vous êtes l'auteur chez Libertalian, un livre qui vient tout juste de sortir, donc qui s'intitule Super-héros, une histoire politique, où vous reprenez quelques de ces super-héros créés ou pas par Stan Lee, et parmi eux il y a évidemment le premier vengeur masqué afro-américain, le Faucon. C'est en 1969, ouais. Donc un an après ce titre de James Brown. Et vous expliquez bien dans votre ouvrage combien les conditions politiques, les conditions culturelles de l'Amérique des années 1930 jusqu'à nos jours ont été des foyers de naissance justement de nouveaux super-héros répondant à de nouvelles demandes sociales, et en particulier de la demande sociale des Afro-Américains pour le cas du Faucon, mais également de celui qu'on a appelé la Panthère Noire, qui est redevenu très célèbre avec un film qui vient tout juste de sortir dans les salles, c'était l'année dernière.
Ouais, Panthère Noire qui précède de quelques années justement le Faucon, mais la Panthère Noire qui était un super-héros africain pour le coup, hein, donc. Et en effet, donc les comics, hein, donc c'est tout simplement le nom des bandes dessinées américaines, répondent généralement à un contexte social, politique et tout, l'accompagnent aussi, parfois le devance, hein, donc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'usage politique des super-héros, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les auteurs ou les autrices, hein, qui vont vouloir dire quelque chose explicitement, ou le dire de manière inconsciente aussi parfois. Et aussi, il y a la réception en fait de la part du public. Hein. Parfois, un super-héros qui, dans les années 50, peut représenter quelque chose, en fait, peut représenter une autre chose pour le public 20 ans après.
Parce que c'est assez malléable, la figure du super-héros.
Complètement, ouais, complètement. Surtout qu'en fait, quand vous avez des super-héros, en fait, bon, pour simplifier canoniquement, hein, donc, parce qu'après le débat est sans fin pour savoir qui est le vrai premier super-héros. Donc, et vous savez que la quête des origines en histoire, bon, on a arrêté. Hein, donc, mais canoniquement, le premier super-héros, enfin en tout cas le plus connu, c'est Superman, qui apparaît dans Action Comics en
38.
Numéro 1 en juin 1938. Hein, donc c'est maintenant un vieux monsieur, il a fêté ses 80 ans. Donc, mais évidemment, Superman, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui s'en sont emparés en fait, hein, de ce personnage-là, dans plusieurs types de médias, hein, les comics, le cinéma, les séries télé. Donc voilà, donc même les jeux vidéo maintenant. Donc voilà, c'est un personnage en effet qui est très plastique. Hein.
Victor Massé-Lépine.
Superman, c'est l'emblème de DC Comics.
Ouais.
Aujourd'hui, on vous reçoit à l'occasion, peut-on dire, de la mort de Stan Lee, qui est la figure tutélaire de Marvel Comics. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer, Stan Lee a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale à écrire.
Un peu avant. Il a eu un rôle, en fait, en fin de compte, parce que dans ce qu'on appelle l'âge d'or des comics, hein, donc, qui commence en 38 et qui finit en 54-56, hein, pour simplifier, il a eu un rôle qui est il a pas un rôle de premier plan en fait, hein, donc c'est vraiment dans les années 60 quand Marvel Comics, hein, qui avant s'appelait Timely puis Atlas, donc l'autre maison d'édition majeure des comics, va émerger, que Stan Lee joue un rôle extrêmement important, parce qu'il va co-créer, hein, notamment de nombreux super-héros, hein, donc les Quatre Fantastiques, Hulk, Thor, Iron Man, voilà. Donc c'est là, pour le coup, il a joué un rôle important à partir de ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu en fait quelque part une figure tutélaire. Voilà, mais après il y a eu. Ouais.
Et alors justement, pourquoi est-ce que dans les années 60, après ce premier âge d'or sur lequel on reviendra peut-être, qui s'est arrêté à un moment au milieu des années 50, pourquoi est-ce que Stan Lee et la société Marvel qu'est-ce qui a constitué le point de naissance de cet âge d'argent, puisqu'on parle aussi grand moment des comics, c'est pas le tout de créer des personnages, il en est créé des dizaines presque chaque année. Pourquoi ceux de Stan Lee, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ou de nouveau?
Ah bah, pour le coup, en fait, c'est des personnages. Enfin, vu que c'est des personnages nouveaux, ils vont plaire justement. Ils vont donner un petit vent de fraîcheur en fait, hein, dans les comics. Et ils vont plaire à la jeunesse des années 60, qui se reconnaît peut-être un peu moins
dans Superman,
dans Batman, dans Wonder Woman, qui sont des personnages un peu plus âgé hein, pour le coup, hein, donc qui était lu par les parents. Donc là, en fait, là, quand il va créer donc des nouveaux super-héros, c'est des super-héros qui vont parler directement à la jeunesse. Et surtout, il y a Spider-Man en fait qui est vraiment le super-héros adolescent par excellence en fait. Avant, la plupart des super-héros des adolescents sont des sidekicks, hein, donc des compagnons de super-héros, hein, Batman et Robin hein, par exemple. Hein, donc et là, c'est le sidekick qui devient le héros principal. Et en plus, Spider-Man, c'est vraiment le héros du quotidien. Hein, c'est celui concrètement qui a des petits problèmes pour payer son loyer à la fin du mois. Donc,
Alors, ce qui est très intéressant dans votre travail super-héros, une histoire politique, c'est que vous insistez après d'autres. On a vu des expositions particulières au musée d'histoire du judaïsme sur cette question-là, sur la naissance de ces super-héros sous la plume et sous le dessin d'immigrés juifs américains venant pour beaucoup d'Europe centrale, donc dans les années 20 ou dans les années 30, qui créent ces super-héros à l'occasion, pour la plupart d'entre eux, du conflit mondial, pour insister sur la nécessité que l'Amérique entre en guerre contre le nazisme. Et ils sont nombreux, dites-vous, à avoir créé ces super-héros dans ces années 1939, 1940, 1941, avant que les États-Unis entrent dans le conflit eux-mêmes.
Oui, alors le héros typique de ça, c'est Captain America, donc co-créé par Joe Simon et Jack Kirby. Qui est dans la couverture du premier Captain America Comics, hein, donc c'était en mars 41. Alors c'est la date de couverture, mars 41, c'est-à-dire qu'il est sorti 2-3 mois avant en fait. Hein, donc on est un an en fait avant l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et bien en l'occurrence, on voit Captain America en train de mettre un coup de poing à Hitler. Et il y a, ça a été dit après en fait, hein, mais les deux auteurs ont été menacés hein, par des nazis qui se situent en Amérique, hein, donc notamment des Américains d'origine allemande. Hein, il y avait un fort courant de sympathie pro-nazi, il y avait même une très grosse manifestation nazie à New York en 1939, notamment au Madison Square Garden. Donc ils ont été menacés et ils ont été aidés, notamment par le maire de New York de l'époque, hein, Fiorello LaGuardia, qui les a aidés, qui leur a donné une protection policière.
Victor Massel-Lépine.
Vous êtes médiéviste, William Blanc, et dans tous les premiers chapitres, surtout de votre ouvrage Super-héros, une histoire politique, qui est chronologique. Donc les premiers super-héros, ceux créés dans la fin des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Âge, c'est vraiment un horizon, un substrat très important, qu'il soit du mauvais côté ou du bon côté. Captain America, sur cette première couverture, a un beau bouclier
de chevalier.
Aujourd'hui, c'est un bouclier rond avec lequel on le présente. Là, c'est un écu un peu plus long et pointu en bas. Mais tous ces premiers super-héros, les méchants, que ce soit des nazis, que ce soit des japonais, sont toujours représentés dans des châteaux forts, l'obscurantisme.
Ouais, parce qu'en fait, ça c'est vraiment l'image l'image médiévale classique qu'on voit beaucoup aux États-Unis. C'est en fait quelque part, en plus, ça renvoie à la vieille Europe. Hein, donc la vieille Europe, c'est la tyrannie, donc c'est la tyrannie féodale, c'est le Moyen Âge. Alors qu'à l'Amérique, c'est la nation du futur, en fait, quelque part. Hein, donc.
Et vous montrez bien effectivement combien cette dimension née chez Walter Scott, pourrait-on dire, du médiévalisme européen, s'est transposée dans une Amérique qui ne pense qu'au futur ou qui ne veut penser qu'au futur et qui donc prend cette image médiévale comme étant une sorte de repoussoir. Expliquez-vous, William Blanc, dans votre livre sur les super-héros. C'est extrêmement intéressant que de voir ça parce que il y a un super-héros qui lui est collé à ce Moyen-Âge, pourrait-on dire, c'est la Batcave de Batman, puisque Gotham City, vous rappelez effectivement que c'est la ville gothique, en l'occurrence, ce que tout le monde ne sait pas forcément, et que Batman, c'est un être sombre, qui regrette la perte de ses parents, qui peut avoir une dimension extrêmement dure et voire presque réactionnaire parfois, expliquez-vous, et que sous la plume des différents auteurs qui ont travaillé sur Batman, que ça soit en comics ou au cinéma, eh bien il y a toujours cette dimension très marquée par les Dark Ages, le Moyen-Âge à version américaine, pas pour un Dark Knight, un chevalier noir.
Ouais, le chevalier noir, d'ailleurs, c'est son surnom quasiment dès le début, en fait, hein, donc, de Batman. Alors attention, Batman, dans les années 50-60, c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus coloré.
C'est la petite série télévisée. Voilà, c'est la série télévisée quand on a grandi dans ces années-là.
Mais en effet, au début, c'est un personnage très sombre, et ça, c'est lié, pour le coup, à une imagerie médiévaliste qui est un peu à part. C'est-à-dire qu'on compare depuis les années, dans la littérature populaire, depuis le 19e siècle, notamment en France, en Angleterre, le prolétariat urbain ou la pègre urbaine à des barbares du Moyen-Âge. Mm-hmm. Et pour combattre ces barbares, il faut des chevaliers, en fait. Hein. Donc, souvent, les détectives sont comparés à des chevaliers et Batman, c'est le super détective.
Enfin. Ce qui est très intéressant, et ce que vous pointez du doigt dans votre travail, c'est de dire que cette vision des chevaliers était une vision défendue par les sudistes pendant très longtemps. On le sait quand on a vu, évidemment, les films en particulier de Naissance d'une nation, ah ouais. Sur le Ku Klux Klan, sur la valorisation du Ku Klux Klan, qui se veulent des chevaliers.
Voilà, leur nom, c'est les chevaliers du Ku Klux Klan.
Voilà, et qu'il y a dans cette Amérique de gauche en particulier la naissance de chevaliers rouges qui se veulent des chevaliers du progrès, mais qui reprennent ce terme de chevalier comme pour renverser ouais, le stigmate.
Là, pour le coup, c'est Captain America, pour le coup. Hein. Jack Sherman, Joe Simon et Jack Kirby sont vraiment dans cette logique-là, en fait.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
Shelter from the Storm, un titre de Bob Dylan que vous mettez en ouverture de votre chapitre 4, en l'occurrence, William Blanc, de Super-Héros, une histoire politique chez Libertalia. Je me suis retourné et elle se tenait là, des bracelets d'argent au poignet et des fleurs dans les cheveux. Elle s'avança vers moi avec grâce et ôta ma couronne d'épines. Viens, dit-elle, je t'abriterai de l'orage. Et c'est le chapitre consacré à Wonder Woman. Parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée, que vous avez pointé du doigt dans votre travail sur la question des super-héros, c'est la place des chaînes. Voilà beaucoup de gens qui sont enchaînés. Superman est représenté comme étant en train de casser ses propres chaînes et beaucoup de ces super-héros sont comme des Houdini modernes qui tentent de briser les chaînes du monde ancien pour créer un monde nouveau. Et Wonder Woman, elle est enchaînée ou elle libère des enchaînés.
Oui, alors ça c'est en fait une prolongation de l'imagerie médiévaliste en fait en l'occurrence. Hein. Le donjon médiéval, après c'est la prison et après quelque part c'est les chaînes. Et en fait c'est tellement évident qu'on l'oublie. Moi je le rappelle en fait c'est quelque part l'événement central de l'entrée dans la modernité, c'est la prise de la Bastille qui est en fait un donjon médiéval en fait mm-hmm. pour libérer des prisonniers. Donc il y a vraiment cette idée qui est très présente dans les représentations de la liberté, hein, la statue de la liberté ou la liberté guidant le peuple, dans plein de ses représentations, de voir des chaînes brisées, en fait. Hein. Et ça, c'est souvent les super-héros reprennent cette imagerie-là. Et Houdini, en fin de compte, c'est un personnage qui est très important.
Houdini, c'est donc celui qui s'inspire de Robert Houdin, magicien français du 19e siècle, et qui, au 19e, au début du 20e, aux États-Unis, va devenir une sorte de super-héros soi-même, puisque c'est celui qui veut briser les frontières de la mort en se mettant dans des situations impossibles, enchaîné.
Et en plus, c'est lui-même un immigré, en fait, qui vient d'Europe centrale, qui est d'origine juive, en fait. Hein, donc, il y a vraiment l'idée qu'il se libère des chaînes de l'Europe féodale hein, pour aller se construire une espèce de suridentité, hein, en plus une identité secrète, hein, parce que c'est pas son vrai nom Houdini, hein, donc pour acquérir de la gloire dans le nouveau monde en fait. Hein,
Victor Massé de l'Épinay.
Alors Wonder Woman, elle évoque les chaînes ou les lassos, le bondage, on a beaucoup parlé de Wonder Woman qui une case sur deux est en train de se faire ligoter ou de libérer.
27% des cases sont consacrées à cette question du bondage et du sadomasochisme dans Wonder Woman, c'est ça.
Mais Wonder Woman Woman, c'est peut-être avant cela d'abord la place de la femme dans ce monde des super-héros et son destin, si on peut dire, le destin de sa réception critique ou par les autorités américaines est assez intéressant puisque quand elle est créée, elle est une figure du matriarcat, elle évoque une de ces sociétés idéales de demain, débarrassée de la guerre, où les femmes ont pris plus de place. Mais
Paradise Island, c'est ça, c'est son lieu de naissance.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de ce premier âge d'or des comics, elle est un symbole du caractère dégénéré de ces comics pour certains détracteurs. On dit qu'elle ne travaille pas, qu'elle n'a pas d'enfant. Donc on l'accuse évidemment d'être une lesbienne et c'est un des symboles de ce qu'on a voulu faire et qui a conduit au Comics Code en 1954.
Oui, en effet. Donc, il y a toute une, et là, on est dans le cadre du McCarthyisme, en fait, tout un courant, en fait, très réactionnaire aux États-Unis qui associe à raison, souvent, en fait, les comics avec tout un courant progressiste et donc qui veut absolument, donc, quelque part, attaquer les comics. Ça passe aussi par le travail d'un psychanalyste, en fait, qui s'appelle Frédéric Vertam, en fait, qui va dire, en effet, que Wonder Woman est une lesbienne, mais aussi que Batman et Robin entretiennent une relation pédérastique et tout. Donc, il y a une espèce de pression terrible qui est posée sur les éditeurs de comics qui va aboutir, en fait, à l'adoption par les éditeurs de comics d'un code d'autocensure qui s'appelle le Comic Code. Comics Code, en fait, donc qui va...
Comme le code EYES pour le cinéma.
Exactement, oui.
Et alors Batman, par exemple, on lui collera une femme, la Batwoman, un chien aussi, pour lui constituer une sorte de foyer américain typique.
Superman aussi aura son chien, c'est Crypto le super chien, voilà. Donc il y a vraiment l'idée, et c'est un peu par la même époque, c'est 54, 55, 56.
Et alors ce qui est intéressant avec cette femme, par exemple, Batwoman, c'est qu'on apprend au milieu des années 2000 qu'en fait, elle est vraiment lesbienne.
Oui, bah là, c'est les auteurs, quelque part, qui font une espèce de pied de nez en fait à l'histoire. Enfin, ça, les auteurs de comics aujourd'hui supportent pas l'évocation du Comics Code en fait, donc ils ont fait une espèce de pied de nez avec Batwoman en fait en la transformant en fait en lesbienne.
On apprend beaucoup de choses en vous lisant, William Land, dans votre livre sur les super-héros chez Libertalia. Quand on n'est pas un spécialiste soi-même de l'histoire des comics, on y lit cette phrase par exemple de Stan Lee, que Stan Lee met dans un scénario de Captain America: aucun homme, aucun groupe ne peut prétendre à l'étiquette de super patriote. La liberté appartient à tous, sinon elle n'a aucun sens. Et c'est là effectivement où votre projet de travailler sur une histoire politique des super-héros prend tout son sens. En l'occurrence, c'est que il y a dans ces comics des messages qui ne sont même pas subliminaux, qui sont des messages affirmés effectivement de volonté d'une promesse, la promesse américaine de la liberté, qui n'est pas toujours tenue. Et ça sera le cas aussi au moment du Patriot Act, par exemple, où les auteurs de comics américains vont prendre la main pour pouvoir justement combattre ce qui est en train de se passer dans l'Amérique de George Bush.
Ouais. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui avec l'Amérique de Trump. Là, les comics sont vraiment, les auteurs de comics sont très très mobilisés. Je pense notamment, encore une fois, avec un épisode avec Captain America qui s'appelle Secret Empire. Je vous lis juste un petit texte que j'ai ramené sur Stan Lee, en fait. C'est un texte qu'il a publié il y avait une espèce de lettre au lecteur qui est publié dans tous les comics Marvel, dans la plupart en tout cas. Et là, c'est un extrait, je l'ai tiré de The Amazing Spider-Man numéro 65 d'octobre 1968, dans un cadre très dur, assassinat de Luther King, assassinat de Bobby Kennedy, puis aussi campagne présidentielle,
avec Nixon.
Avec Nixon, et guerre du Vietnam, et voilà ce que dit Stan Lee: nous voulons nous exprimer clairement sur un sujet d'importance. Nous croyons que l'homme a une destinée divine et une énorme responsabilité, celle de traiter tous ceux qui partagent ce monde merveilleux qui est le nôtre avec tolérance et respect, celle de juger chaque être humain selon ses propres mérites et pas selon son origine ou sa couleur. Nous n'aurons pas de repos tant que cela ne sera pas une réalité et plus seulement un rêve. Excelsior, donc ça c'est le mot de Stan Lee, mais plus seulement un rêve, on comprend évidemment la référence, elle est quand même limpide.
American Dream.
Et voilà, donc American Dream, mais aussi I Have a Dream de Luther King en fait. Ouais.
Et ça c'est en 68,
68.
4 ans après l'assassinat de, 5 ans après l'assassinat de Kennedy, quelques semaines après l'assassinat de Kennedy, Captain America, justement, qui avait disparu, il n'était pas mort, mais il ressuscite sous la plume de Stan Lee.
Ouais, et sous la plume de Stan Lee, et en plus, il ressuscite sous une forme arthurienne en fait. Hein, donc c'est le roi endormi. Hein, il est réveillé dans un, il est endormi dans un
cryogénisé
en fait dans un iceberg. Et l'image, c'est vraiment l'image du roi endormi. Hein, donc avec le bouclier sur le corps et tout. Hein, donc et il est réveillé. Et là encore une fois, c'est évident parce que Kennedy est comparé hein, au même moment en fait au roi Arthur en fait. Hein, donc
ce qui est très intéressant, c'est que on découvre que dès 1940, ces super-héros ne sont pas seuls. On imagine une Justice Society of America qui sera la matrice, pourrait-on dire, plus tard de la Justice League, des X-Men, des Vengeurs, tout héros qui ont été pour certains d'entre eux construits ou imaginés par Stan Lee. Donc il y a aussi cette idée d'individualisme, mais aussi de nécessité de entre des personnes très différentes, pourrait-on dire, puisque évidemment les quatre fantastiques n'ont rien à voir dans leur qualité et leur capacité d'action les uns avec les autres. Il faut s'unir à un moment donné pour faire société.
Oui, et puis en plus les groupes de super-héros, enfin par exemple la JSA, la Justice Society of America, se réunit pour la première fois autour d'une table ronde. Donc encore une fois, c'est assez marqué.
Vous qui êtes spécialiste de la question du médiévalisme arthurien.
Ah oui, là pour le coup. Et puis très clairement, en fait, les héros se réunissent au début pour raconter leurs exploits chacun à leur tour, ce qui est l'exacte description de la table ronde. Donc dans les textes médiévaux. Et sauf que la table ronde aux États-Unis, notamment la table ronde arthurienne, prend le sens en fait du melting pot arthurien. C'est en fait chacun s'assoit en fait autour d'une table ronde et chacun à la table ronde a une place égale à l'autre. Et donc il y a vraiment cette imagerie qui est très forte. Et dans la JSA, donc au tout début, très rapidement, Justice Society of America, Wonder Woman va rentrer et va devenir la secrétaire en fait au sens politique, hein, la première secrétaire quelque part entre guillemets de la JSA. Elle va trôner au centre en fait. Donc
J'ai découvert grâce à vous l'existence de Jeanne d'Arc américaine.
Ouais.
Alors ça, j'étais scié. C'est-à-dire que la figure de Jeanne d'Arc, magnifiée par des suffragettes et féministes américaines de la fin du 19e et du début du 20e siècle, va entrer ensuite dans cet univers des super-héros et on va créer des héroïnes dont Pat Patriot en 1941, qui s'appelle Jeanne d'Arc de l'Amérique, mais également Liberty Bell. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'une d'entre elles, Miss America, c'est ça, va avoir comme nom véritable, comme le nom de Superman ou le nom de Batman, elle s'appelle Joan Dale.
Ouais.
Et on dit Joan of Arc.
Ouais, Joan d'Arc, voilà.
Donc, ou Joan d'Arc pour Jeanne d'Arc.
Ouais, c'est quand même très marqué. Alors voilà, je le dis très rapidement parce que c'est en fait, ça peut paraître bizarre pour nous en France, mais je pense sincèrement que les États-Unis sont un pays plus joannique en termes de mémoire que la France. En fait, maintenant, la mémoire joannique est très très forte aux États-Unis. Donc, et en effet, ça date du 19e siècle, notamment avec quelqu'un comme Mark Twain qui va écrire un roman en 1894 sur Jeanne d'Arc.
Et donc, il y a aussi l'émergence, on l'a dit, dans ces années 60, dont on parlait à l'instant avec Victor Massé-Lépiné autour de 1968, de l'assassinat des Kennedy, etc., etc. La naissance, comme on l'a dit au tout début, de ces super-héros noirs. Vous n'avez pas été fortement surpris du succès de Black Panther l'année dernière au cinéma.
Non, j'ai pas été surpris.
Et de cet afro-optimisme, pourrait-on dire, qu'il porte en soi.
Ben, en plus, alors... Black Panther, c'est vraiment l'anti-Tarzan. Tarzan, c'est l'occidental qui s'en sauvage pour s'endurcir et qui va dompter une Afrique qui est liée, qui est associée en fait à la nature sauvage.
C'est sûr qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des super-héros qui sont moins progressistes que d'autres. Les héros de Edgar Rice Burroughs ou les héros comme le fantôme ou Mandrake ne sont pas forcément des héros très progressistes.
Mais c'est le fantôme, c'est pas dans les comics, hein, donc ça viendra après. Mais en tout cas, Tarzan, donc ça représente vraiment. Voilà, l'homme blanc qui s'endurcit au contact d'un territoire qui est perçu uniquement comme un territoire sauvage ou animalisé. Black Panther, c'est un super-héros africain qui, lui, est un scientifique accompli, en fait, hein, et qui s'appuie sur une technologie, en fait, sur une technologie très forte. Hein. Donc, une des premières images, hein, donc dans l'épisode qui est consacré, où on le voit apparaître, qui est scénarisé par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby, il est en plein milieu de son royaume africain, en train d'écouter du Dvorak, hein, je crois, ou du Krieg, hein, voilà, avec un pianiste à côté. Donc, il y a vraiment l'anti-Tarzan, en fait, hein, c'est vraiment l'idée, et c'est l'idée, en fait, quelque part, d'être un super-héros noir, en fait, hein, c'est vraiment un Superman noir, Superman, c'est l'homme du futur. Black Panther, c'est l'homme du futur, mais c'est l'afrofuturisme pour le coup. Et ça va en parallèle avec tout un courant musical ou esthétique qu'on voit apparaître à l'époque avec des musiciens comme Sun Ra, par exemple, hein, où en fait on va créer de la musique en fait futuriste, afrofuturiste.
Alors depuis tout à l'heure, on fait une lecture sur fond de société américaine de tous ces personnages de comics qui suivent bien sûr les traumatismes de la société américaine, Seconde Guerre mondiale, assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam. Je voudrais mettre rapidement les pieds dans le plat, William Blanc. Est-ce que tout ça, historiquement, c'est pas quand même un grand gloubi-boulga de Arthurien, Edison, mythe nordique? Est-ce que tout ne se mélange pas de façon un peu anarchique et finalement caricaturale?
Oui, ça se mélange, mais en l'occurrence, il y a quand même une ligne directrice qui veut dire quelque part que l'Amérique, en fait, et les super-héros incarnent en fait un espoir progressiste dans un futur. Voilà, donc il y a en fait c'est un melting pot culturel très clairement, mais il y a quand même un fil rouge.
Merci William Blanc. Et puis il faut dire que votre livre est très bien illustré justement et permettra à ceux qui ne connaissent pas ces comics de voir des références que vous citez au long de ces pages. Il s'intitule Super-héros, une histoire politique, et j'ai été vraiment frappé par le portrait de Huey Newton, qui est un de ceux qui participent au mouvement donc des Black Panthers, qui est quasiment repris par l'affiche de Black Panther, le film sorti plus tard. Donc il y a vraiment des références, y compris graphiques, qui sont très intéressantes à noter, pas simplement des références écrites. Ça s'appelle Super-héros, une histoire politique, William Blanc, chez Libertalia. Il est temps de venir un héros du 19e siècle, même si c'est un héros qui pour beaucoup a été un héros négatif. Il s'agit de Ravachol, donc deuxième épisode de notre C'était à la Une consacré à l'arrestation de Ravachol. C'est en 1892 et c'est dans Le Matin.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la Une.
Le Matin, 31 mars 1892. Ravachol arrêté. Jules Leroux ne pensait déjà plus à son client du matin, quand, dans l'après-midi, il entendit crier sur le boulevard « Demandez la terrible explosion de la rue de Clichy, le nombre des victimes !» Il se rappela alors l'homme qui avait essayé de le convertir aux doctrines anarchistes, et son image demeura gravée dans son esprit. Il acquit la conviction intime qu'il avait eue devant lui, le terrible dynamiteur, et il regretta de ne pas l'avoir arrêté. Le garçon du restaurant du boulevard Magenta fit part de ses impressions à M. Véry, son patron, qui est également son beau-frère. « Si jamais cet oiseau-là revient ici, se dirent les deux hommes, nous le ferons empoigner par les sergents de ville. Si ce n'est pas lui, tant pis. » Quelle ne fut pas la stupéfaction de Jules Leroux en voyant de nouveau entrer dans le restaurant hier matin, son anarchiste de dimanche dernier, celui qu'il croyait bien être Ravachol. Il était 11 heures du matin. Il demanda l'intransigeant qu'il parcourut très rapidement. Le journal tremblait dans ses mains. Puis il se fit servir successivement un bouillon, une portion de poulet au riz, un plat de choux de Bruxelles. Il parut manger d'un excellent appétit et il prit une bouteille de vin. Il demanda ensuite un café avec cognac. Cependant, tandis que l'inconnu déjeunait, le garçon ne l'avait pas quitté du regard. Il s'était installé à la table de droite et avait sous les yeux un journal dans lequel se trouvait le dernier signalement de Ravachol, le même que nous avons publié hier matin, et il constatait que chaque particularité coïncidait avec les détails de la physionomie de l'individu. Il remarqua notamment la cicatrice circulaire sur le pouce de la main gauche, cicatrice que l'inconnu s'efforçait de dissimuler en tirant sans cesse d'un mouvement machinal la manche de sa redingote. Le signalement reproduit par le journal insistait particulièrement sur la longueur des pieds du dynamiteur recherché. En se penchant discrètement, l'héros aperçut sous la table de son client une paire de pieds énormes. « C'est Ravachol qui est dans la boutique, » dit-il à M. Véry. « J'en suis absolument sûr. » Monsieur Véry envoya immédiatement son laveur de vaisselle prévenir le commissaire de police du passage du désir, Monsieur Dresch. Monsieur Dresch déjeunait. On conçoit aisément l'émotion qu'il ressentit quand son garçon de bureau, lui-même très ému, lui dit à brûle-pourpoint « Ravachol est en face, on est sûr que c'est lui. » Monsieur Dresch ne prit pas le temps de s'habiller. Il descendit en pantoufles, après avoir passé un veston sur sa chemise de nuit. Le magistrat se fit servir une consommation à la table où le garçon s'était installé lui-même pour mieux observer son client. Quand il aperçut le consommateur, Ravachol serra nerveusement les poings. Puis il se mit à remuer fébrilement son café avec sa petite cuillère. Tout à coup, il appela « Garçon, mon addition !» Puis il se leva, prit son pardessus à la patère, mit son chapeau. Il prit sa canne, se disposant à sortir. À ce moment, M. Dresch se leva à son tour, tenant absolument à précéder Ravachol pour l'appréhender à la sortie. Dès qu'il fut sur le trottoir, M. Dresch se planta devant lui et lui dit, en lui écartant vivement les deux bras, « J'ai quelque chose à vous dire, vous allez me suivre. » Ravachol se vit perdu, mais il n'était pas dit qu'il se laisserait ainsi arrêter sans tenter une résistance désespérée. Il mit la main à sa poche droite pour prendre son revolver, mais en même temps, le garçon de bureau, Alfred Mottet, glissait la main dans la poche de l'anarchiste et lui arrachait son arme, pendant que le sous-brigadier Thomas et l'agent Jacot, également du 10e arrondissement, se jetaient sur Ravachol et lui arrachaient sa canne.
Voilà donc pour ce C'était à la Une avec le site Rétro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. N'hésitez pas à aller voir l'intégralité de ces articles, et en particulier de cet article du matin de 1892, soit sur le site de Rétro News, soit en passant par le site de France Culture, franceculture.fr, à la page de la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marsay et Céline Leclerc. Jean-Guilain Meige était aujourd'hui avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.